Alors, je vais vous parler donc, enfin, des vécus disciplinaires en mathématiques, en tout cas, la façon dont on a pu les reconstruire. Et l'objectif, en fait, c'est de travailler un petit peu cette notion de vécu disciplinaire dans une discipline qui est encore en France, on va dire, une discipline clé pour les orientations, pour le trajet scolaire d'un élève. Et on peut s'interroger, effectivement, au vu des composantes particulières du vécu disciplinaire en mathématiques, des effets possibles sur le décrochage ou l'accrochage disciplinaire, pour le dire de cette façon-là. C'est-à-dire que je n'ai pas considéré le décrochage scolaire, mais plutôt le décrochage ou l'accrochage en mathématiques. Alors, tout d'abord, je rappelle, c'est ce qu'on a vu ce matin, que ce que j'ai pu reconstruire, c'est à partir de discours d'élèves, donc du CM2, à peu près CM1, CM2, jusqu'en terminale, de discours d'étudiants ou de stagiaires. Pourquoi est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Parce que les élèves que nous avons interrogés, ils ont tous encore des heures de mathématiques obligatoires dans leur cursus. Tandis que les étudiants ou les stagiaires, parfois on préfère appeler stagiaires les étudiants qui suivent le Greta, par exemple, sont des personnes qui n'ont plus forcément de cours de mathématiques obligés. Donc ils fonctionnent plutôt sur des souvenirs ou des reconstructions, de ce qui a été leur propre vécu en tant qu'élèves de mathématiques. Des discours d'adultes, alors au sens général du terme, et de leurs souvenirs, par exemple vous, des acteurs de l'éducation, avec vos souvenirs ou vos représentations de ce que c'est que cette discipline scolaire, les mathématiques. Je ne me suis pas interdite non plus d'aller recourir de temps en temps à d'autres sources, par exemple dans des colloques ou bien dans les articles de presse qui paraissent, effectivement de regarder si on ne retrouve pas des traces de ce qu'on peut appeler le vécu disciplinaire, enfin qui contribue à pouvoir le reconstruire. Alors, cette histoire de vécu disciplinaire, c'est vrai que pour bien distinguer, je vais essayer de lister et de rentrer plus dans le détail de ce que nous avons pu reconstruire. C'est vrai qu'un espace disciplinaire, ça peut être vécu de façon différente. Tout d'abord, c'est vrai que c'est un espace d'activité obligé. On est obligé d'aller en cours de maths. Donc ça peut être, pensez par exemple aux élèves, aux enfants qu'on emmène dans les musées. D'accord, qu'on traîne dans les musées, ils disent ça peut être un paradis, ça peut être un enfer, ça peut être aussi un lieu d'ennui absolument incroyable. Donc, dès qu'il y a activité obligée, on se pose la question effectivement de savoir comment les acteurs qui sont obligés d'avoir ces activités reconstruisent cet espace. On peut se dire aussi qu'au fond, la discipline scolaire, les maths toujours, ça peut être vécu comme un espace social où il y a un enseignant, des élèves, c'est-à-dire un jeu d'interaction sociale. Donc il peut y avoir des intérêts. Je ne veux pas passer pour l'intello de service. D'accord ? Des jeux de pouvoir. Ah mais madame, moi je sais, que l'on voit encore dans les petites classes. Il peut y avoir des valeurs et des positions, alors qu'elles soient individuelles ou collectives. D'accord ? Ce qui fait un espace un peu différent de celui de l'activité obligée. Enfin, c'est un espace aussi social, mais qui peut être en conflit ou en résonance avec les autres espaces dans lesquels les acteurs évoluent. Et je pense en particulier, on l'a évoqué ce matin, par exemple pour l'éducation musicale, il y a toutes les écoles de musique, les conservatoires qui sont intéressants à les observer. Mais pour les mathématiques, moi je pense plutôt à l'espace tout simplement de la famille ou de la fratrie pour savoir effectivement comment on peut parler de mathématiques autour de la table. Est-ce qu'on en parle? Et quels sont les discours tenus? D'accord ? Et comment ça peut interférer avec la façon dont certains élèves se positionnent, comment ça pèse sur leur vécu disciplinaire. Voilà. Donc, pour regarder un petit peu, pour construire ça, vous allez voir que dans ce qui peut être décrochage, puis ensuite ce qui peut être accrochage, j'ai commencé par lister un petit peu l'espace d'activité obligé. Puis après, j'ai regardé les positions des acteurs, enfin, ce qu'ils disaient des uns et des autres. Et enfin, j'ai regardé un petit peu s'il pouvait y avoir conflit avec d'autres espaces sociaux. Mais le vécu, c'est aussi un temps, une histoire. C'est-à-dire que un vécu disciplinaire, c'est pas stable. Ça se modifie. Ça se perturbe, ça peut être perturbé, ça peut être source de souvenirs, source d'oubli obligé. Parfois, on est obligé d'oublier certaines souffrances ou certains passages. Ça peut être des sources d'événements marquants, voire même de traumatismes, sans aller trop loin dans le pathos, mais quand même de temps en temps. Et donc, on peut se poser la question, en écoutant et en analysant les discours des élèves, si par exemple, les vécus disciplinaires en mathématiques, est-ce que ça nous reconstruit plutôt une histoire qui est ponctuée d'événements, d'accord, ou au contraire quelque chose qui est vraiment très monotone? Est-ce que c'est une histoire de rupture? C'est-à-dire, par exemple, il y a des élèves qui peuvent dire, on va voir hein, dans le vécu disciplinaire en mathématiques, si c'est une discipline qui est une discipline continue du CM1 jusqu'en terminale, quelle que soit la formation qu'on emprunte, hein, filière générale ou lycée professionnel, ou bien est-ce que c'est au contraire une histoire qui est marquée de rupture importante pour les élèves? Donc, une histoire répétitive ou nouvelle, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'anticipation. Et enfin, est-ce que c'est une histoire qui est plutôt commune, partagée? C'est-à-dire que les élèves, au fond, auraient beaucoup de points communs dans leur vécu disciplinaire, ou au contraire, est-ce que ce sont des histoires extrêmement personnelles que celles du vécu disciplinaire de chaque élève, et donc qui peut être également cachée ou difficile à mettre en mots. Voilà. Je commence simplement par ce que l'on avait dit, c'est que cette discipline scolaire, nous leur avons vu en poser la question, effectivement, quelle est ta discipline préférée? Quelle est la discipline que tu détestes ou que tu aimes le moins? Le cadre du meilleur et du pire souvenir, etc. Et les mathématiques, elles sont arrivées comme la discipline scolaire qui est au cœur de ces souvenirs, des goûts, des dégoûts, vraiment de toute l'histoire, on pourrait dire scolaire, de toutes les personnes que nous avons interrogées. Alors, quelques chiffres, hein, simplement. Je passe un tout petit peu là-dessus, mais je vous les donne quand même parce que ça permet de montrer ça. C'est la discipline qui est la plus citée. Dans 20%, hein, je ne sais pas si vous voyez, dans 20% des questionnaires, alors je rappelle qu'on en a plus de 2000, hein, beaucoup, dans un questionnaire sur 5, la discipline mathématique est citée. Et c'est loin devant toutes les autres disciplines, français, histoire, géo, sport, etc. Et c'est une discipline scolaire qui est plus, bon, j'ai mis détester qu'aimer, c'est-à-dire qui est vraiment, qui a un poids négatif, 26%, beaucoup plus important qu'un poids positif, 16%. Bon, ceci, c'est quelque chose qu'elle partage aussi avec beaucoup d'autres disciplines scolaires, hein. Vous voyez qu'il n'y a que le sport qui est une discipline scolaire sur laquelle les vécus ont un poids positif plus important que le poids négatif. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des souvenirs et des évocations. Les souvenirs, mais c'est vrai que, et je donne simplement ceci, bon, c'est pour montrer que dans le poids positif, ici c'est tout ce qui est positif. Ça, c'est quand elle a été citée comme la discipline préférée. Ça, c'est quand elle a été citée comme la discipline où il y a un cadre du meilleur souvenir. Et ça, c'est le cas où elle a été citée comme discipline qui donne envie de venir. Même chose, là, c'est quand elle a été citée comme la discipline la plus détestée, on va dire, celle qui est le cadre du pire souvenir et celle qui ne donne pas envie de venir. Et vous voyez que quand elle est citée négativement, ben, j'ai envie de dire que c'est une discipline détestée qui est en même temps le cadre du pire souvenir et qui donne pas du tout envie de venir à l'école. Bref, c'est assez homogène. Par contre, quand c'est cité positivement, ben, y a une plus grande marche. C'est simplement pour dire cela. C'est-à-dire qu'on adore les mathématiques, alors on dit pourquoi, mais on a moins, relativement parlant, de très bons souvenirs en maths. Les souvenirs marquants, extraordinaires, intéressants, joyeux, on en a moins, j'en ai trouvé beaucoup moins dans les textes et des élèves et des stagiaires et des adultes. Voilà. Les niveaux et les formations, et c'est là-dessus que j'ai une seule chose à faire. Bien sûr, on a été interrogé à primaire, collège, lycée général, lycée professionnel, BTS, Greta, master. Les différences de répartition entre les poids positifs et négatifs sont extrêmement différents. Et il y a, voilà, une rupture. C'est qu'au primaire, je ne sais pas si vous le voyez, mais au primaire, il y a 31% d'élèves qui disent qu'ils ont un rapport très, un vécu très positif aux mathématiques. Ils aiment bien. Ils aiment bien. C'est pas rare de trouver, moi, les maths, c'est ma matière préférée. J'adore les petits problèmes en arithmétique. Au risque d'être surprenante. Et ceci, eh bien, c'est terminé après. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une rupture entre primaire et secondaire. Au secondaire, c'est terminé. Et donc, il va falloir que l'on s'interroge, enfin, on s'est interrogé sur le fait, mais à quoi tient cette rupture? Et il y a deux pistes, à mon avis, qui sont à privilégier. La première piste, ben, c'est qu'au primaire et au secondaire, les contenus ne sont pas les mêmes. D'accord? Au primaire, on peut dire qu'on est vraiment centré sur la description des figures élémentaires en géométrie, pour le dire comme ça, et le calcul. D'accord, je m'arrête là, le nombre, le calcul. Tandis qu'au collège, on commence effectivement à travailler un peu sur les structures, c'est-à-dire qu'on peut parler d'équations, etc. Bon, les contenus changent radicalement au collège. Il y a une deuxième piste, outre celle des contenus qui traduirait cette rupture, ben c'est celle de la formation des enseignants. Au primaire, les enseignants sont quand même, ont une formation, disons, pluridisciplinaires. Ils sont pluridisciplinaires. Au collège, beaucoup moins. Donc moi, ça m'a toujours interrogée, parce que ce n'est pas vrai dans toutes les disciplines scolaires. Ça m'interroge beaucoup le fait qu'au primaire, avec des enseignants, je vais le dire très crûment, non spécialistes, si vous le voulez bien, de cette discipline, ça passe assez bien. Et que quand on arrive au collège et au lycée ensuite, hein, bien sûr, mais le collège a l'air d'être le point noir, le creuset de toutes ces vécues en souffrance, avec des enseignants qui seraient spécialistes de la discipline, eh bien, il y ait justement un désamour de cette discipline scolaire. Ça m'interroge beaucoup, pour avoir été longtemps prof de collège et prof de lycée en maths, hein, c'est-à-dire... Voilà. Donc je mets dans le lot. Hein. C'est... Alors qu'on a par exemple des disciplines scolaires où c'est l'inverse, hein, où c'est au primaire qu'on n'aime pas et dès qu'on arrive au collège, oh, ah ben ça c'est bien, ça se passe beaucoup mieux. Mais en maths, voilà, donc je m'interroge là-dessus. Voilà pour les quelques chiffres, hein, simplement pour vous donner pourquoi les maths, au fond, c'est un point vraiment, il me semble important, de la façon de vivre, au fond, dans l'école. Ah non, notre enquête n'est pas, je veux dire, la population que nous avons interrogée n'est pas représentative au sens sociologique du terme. Ah oui, mais il manque bien d'autres choses. Ce qui manque le plus, là, c'est les classes prépa. Ah oui, les classes prépa, pour moi, c'est un gros souci, parce que j'aurais adoré. Mais c'est vrai qu'on aurait pu... Ah non, mais attention, hein, nous ne sommes pas du tout dans une enquête qui a un souci d'exhaustivité, de représentativité. Et je vais vous dire aussi, par exemple, les masters que nous avons interrogés sont les masters auprès desquels nous avions des entrées. Là où on peut aller, là où les gens veulent bien nous répondre. Le nombre de questionnaires, alors, c'est toi qui les as. Parce que moi je suis matheuse, mais je ne m'occupe pas des chiffres. Hein. Oui, à peu près de...
Près de 2500.
On cumule différents corpus, c'est-à-dire le corpus principal autour de questionnaires et d'entretiens communs, et des corpus spécifiques qui sont liés par exemple aux thèses, où il y a une partie qui concerne la recherche, une autre partie qui va au-delà. Voilà.
Voilà.
Juste un truc, hein. Oui, il manque des choses. Hein.
Oui.
Très très clairement, il manque des choses, parce que il nous aurait fallu, très clairement, il nous manque des choses. Il nous aurait fallu plus de chercheurs, je dirais, plus de temps. Voilà, les conditions matérielles, hein, c'est le compromis entre ce qu'on veut faire et le côté opératoire. Maintenant, il y a des choses qu'on n'a pas évoquées. Par exemple, on a des entretiens en MEX aussi, si vous voulez. On a des entretiens en maison d'adolescents, etc., etc. Vous voyez ? Donc, il y a des tas de manques qu'on peut pointer. Ça, c'est clair.
Oui, mais je dirais aussi quelque chose, parce qu'au fond, ça touche à la logique de la recherche. J'ai dit qu'on n'était pas du tout dans une logique d'exhaustivité ou de représentativité. Parce qu'on fonctionne, au fond, sur une preuve, entre guillemets, qui est un peu différente. C'est l'idée de saturation. J'explique en deux mots. Ça veut dire que, au bout des 2500 questionnaires que nous avons épluchés, etc., hein, ça fait quand même un sacré boulot, il n'y a plus aucune catégorie nouvelle qui apparaît. C'est-à-dire que quand on commence à étudier un questionnaire, par exemple, je ne sais pas, je lis même dans vos, voilà, en CE2, vous voyez, quand on voit en CE2 tous les soirs, nous devions copier 10 fois 3 à 6 mots différents donnés par l'instit. À la fin de la deuxième semaine, l'un des mots était le mot vache. Je prends le dernier extrait et je trouve ça très intéressant comme truc. Bon, c'est un événement en français, etc. Je crée une catégorie. Je prends le deuxième questionnaire. Généralement, je trouve une deuxième catégorie. Au bout du 50e questionnaire, je m'aperçois que je retrouve la première catégorie, la troisième catégorie. Et il y a un moment donné où il n'y a plus aucune catégorie nouvelle qui apparaît. Et c'est ce phénomène de saturation qui dit, pour nous, c'est peut-être pas la peine d'aller encore ailleurs. Même si ma population n'est pas du tout représentative de l'ensemble des élèves en France, peut-être que ce qu'on trouve, c'est représentatif du vécu disciplinaire en France. Vous voyez, c'est... Bon, je passe sur... Mais c'est une question qui est cruciale, hein, pour nous, qui est pas du tout, que je ne traite pas du tout à la légère. L'histoire géo. L'histoire. Enfin, même, c'est plutôt l'histoire. L'histoire qui est très peu appréciée au primaire. Moi, j'étais très surprise. Voilà, parce que j'avais des représentations du genre oh, « c'est bien l'histoire, enfin bon ». Et non, ils n'aiment pas. Mais par contre, à partir du collège, ils aiment beaucoup. Enfin, grossièrement parlant, hein, bien entendu. C'est peut-être parce qu'on dit, au primaire, ils disent « on copie beaucoup ». On copie, c'est très long. Et ils trouvent ça, bon, peu attractif, on va dire. On va essayer de voir, au travers de tout ce qu'ils nous ont donné comme raison de ne pas aimer, hein, bien entendu, d'être la discipline détestée, au travers des pires souvenirs. Mais on va regarder un petit peu, bon, des accrochages et des décrochages. C'est-à-dire, je commence par les décrochages. Et je commence effectivement en considérant que cette relation à la discipline scolaire, c'est au fond la considérer comme un espace d'activité obligé. Et ce qui arrive en premier, c'est le décrochage par le désintérêt de la formation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en gras ce que je trouve particulièrement en mathématiques, ce qui était le plus fréquent, et j'ai mis en non gras ce que je trouvais très, très rarement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on donne le désintérêt de la formation ? Je ne m'intéresse pas aux mathématiques, je déteste les maths, parce que je n'y trouve aucun sens, je n'y trouve aucune utilité. Je vous cite par exemple un discours d'une élève de terminale L. Je trouve cette matière inintéressante, inutile et très difficile. D'accord, c'est pour ça qu'elle déteste, sa discipline détestée, c'est les maths. Donc vraiment, c'est le total. Par contre, ce qu'on ne trouve pas beaucoup, c'est le désintérêt de la formation avec des raisons qui sont dues soit à l'absence d'anticipation possible, soit à l'anticipation justement. C'est-à-dire, il n'y a aucun élève qui dise par exemple « je déteste cette discipline parce que je sais que l'année prochaine, on va faire quelque chose de très difficile ». Ou bien « je déteste cette discipline parce que je suis incapable de savoir si l'année prochaine ce qui va se passer ». Donc l'anticipation est très très peu construite. le désintérêt de la formation aussi repose très 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 peu souvent sur l'impossibilité de se voir changer effectivement. Alors qu'en revanche, par exemple, en ce qui concerne la lecture, il y a beaucoup d'élèves qui peuvent dire « Moi, la lecture, c'est bien, parce qu'à la fin du CP, j'ai su lire. » D'accord ? C'est très compliqué. On trouve très, très peu de désintérêt de la formation, parce qu'on dirait « Ben non, au fond, ça ne m'a servi à rien, je n'ai pas changé, je suis toujours la même, etc. » Donc, ce sont des choses qui m'interrogent. Alors ensuite, toujours parce que ce sont des activités obligées, ben, il y a le décrochage, tout simplement par la pénibilité du travail exigé. Alors là, je n'ai même, c'est vraiment, c'est difficile, c'est dur, d'accord ? Il y a la somme de travail à fournir, d'exercices à effectuer, qui fait décrocher. Il y a les difficultés éprouvées. Je vous cite par exemple au lycée, je déteste cette discipline scolaire, hein, et mon pire souvenir c'est... Quand en maths, en quatrième, on ne faisait qu'écrire, et puisqu'on avait 2 heures de maths, à la fin, j'avais très mal au poignet. Donc, qui est vraiment la pénibilité, hein, au sens propre du terme, c'est vraiment horrible. Ça a des pires souvenirs. Il y a aussi l'impossibilité d'utiliser certaines stratégies, d'accord, qui rend le travail très pénible. Et là, j'ai trouvé, c'est parmi vous, un souvenir sollicité que j'ai trouvé très intéressant. Où la personne dit, je n'ai jamais réussi à retenir mes tables de multiplication, j'avais jugé cela trop fastidieux, donc déjà l'idée de pénibilité, et mes parents ne me suivaient pas vraiment, ça c'est autre chose. J'avais donc développé une stratégie qui combinait des additions et des scories de tables de multiplication au brouillon. Mais on m'a privé de brouillon pour m'obliger à les apprendre. Voilà. Alors j'ai contourné en utilisant ma copie, etc. C'est bien aussi... Le travail peut être rendu encore plus pénible qu'il n'est parce qu'il y a certaines stratégies qui sont pourtant efficaces, mais qu'on dénie. Et puis la pénibilité, ça peut être la peur. Alors ça, on le rencontre très peu. Alors que par exemple, en sport, on peut rencontrer la peur par rapport à la piscine, par exemple. Le décrochage, toujours des activités obligées, hein, ben, par un ou plusieurs points du domaine étudié. Et alors là, les objets étudiés... Les chiffres me donnent des boutons, d'accord ? C'est quelque chose que l'on retrouve, effectivement. Les maths, car je déteste manipuler les chiffres. Bon, c'est bien dit, mais parfois c'est dit de façon un peu plus brutale. Les activités, effectivement, il y a des élèves qui nous disent « Moi, j'ai horreur des maths, parce qu'il faut, alors c'est à l'heure actuelle, hein, il faut construire des algorithmes. » Ça, c'est en seconde, et ils détestent ça. On déteste également les mathématiques. Alors je dirais le système de preuves, ça c'est un petit peu, c'est dit de façon un petit peu, c'est parce que c'est un adulte, hein, qui avait dit ça. J'ai horreur de tout ce qui est démonstration, hypothèse, etc. Quelle horreur! Et quand il fallait justifier ma réponse en maths, je savais pas comment faire. J'aime pas ça. Par contre, le matériel particulier n'est jamais évoqué dans les raisons de détester les maths. D'accord ? Tandis qu'il peut l'être dans d'autres disciplines scolaires. Là, je ne l'ai pas trouvé. Et enfin, le décrochage par le fait que c'est un univers clos, les maths, c'est un univers clos et c'est un langage à part. Ça, on le retrouve très, très souvent. C'est vraiment des points du domaine étudié. Hein. On le dénie comme ça. Les maths, c'est détestable parce qu'on n'y rentre pas. Toujours... obligé, activité obligée, ben le décrochage par les dispositifs d'enseignement, les dispositifs d'activité. Des modes d'enseignement particuliers. Ah oui, l'absence de moments particuliers, l'ennui et la routine. Alors, je vous cite quelqu'un de terminal. J'ai horreur des maths, ma discipline détestée, car on s'ennuie, on ne fait que des exercices du cours. C'est-à-dire, il dit à la fois le mode d'enseignement et l'ennui que cela provoque. D'accord ? On peut décrocher par effectivement l'absence de moments particuliers, un peu extraordinaires, si vous voulez, qui peuvent faire accrocher. On va le voir après dans les moments d'accrochage. Et puis, les dispositifs, les exercices qui sont détestés. Et là, très curieusement, on retrouve dans les souvenirs d'adultes, cette fois-ci, particulièrement les problèmes d'arithmétique au primaire qui ont laissé des souvenirs, disons, peu reluisants, on va dire, chez certains d'entre nous. Je m'éloigne un tout petit peu des activités obligées pour rentrer maintenant dans un espace disciplinaire qui est plutôt celui des interactions sociales, où on est quelqu'un, on est un acteur, on est un sujet. Et donc on peut décrocher tout simplement par l'échec personnel. Et là, c'est quelque chose que l'on retrouve constamment, c'est la non-maîtrise, l'absence de maîtrise totale, c'est-à-dire on n'a aucun pouvoir. L'échec qui peut être local ou qui peut être persistant, et les évaluations. Je crois que c'est l'un d'entre vous qui a dit qu'il avait eu moins 52 sur 20. Ce qui est... Bon. D'accord, comme pire souvenir, c'est vrai que ça se pose là. Pire souvenir, j'en ai un peu plus... Bon, qui fait plus sourire, c'était un élève de lycée et qui a dû, qui vraiment a marqué, c'est en mathématiques, en troisième, au collège Jean Rostand d'Armentières. Donc vraiment, il voulait qu'on sache où c'était. Voilà. Oui. Voilà. Et il nous dit, j'avais travaillé un peu pour un DS, entre parenthèses, ce qui est plutôt bien car je ne travaille jamais. Et j'avais eu une note médiocre parmi les autres. D'accord ? Donc vraiment, c'était un échec pour lui, parce que pour une fois, il avait fait... Bon, voilà. Donc il avait reçu une mauvaise note. Mais ça, c'est très très important en maths, vraiment. C'est un point de décrochage, je crois, qui est vraiment fondamental. Le décrochage que je mets un tout petit peu différemment, c'est l'image de soi négative. Je vois moins la déconsidération que l'humiliation. Il y a beaucoup de pires souvenirs d'humiliation. Je n'ai pratiquement pas trouvé, alors je dis le sentiment d'appartenance à une classe inférieure, mais ça pourrait être même une espèce inférieure de temps en temps. Je laisse ça en suspens. L'humiliation, c'est aussi des gens qui disent, je reprends des exemples que vous avez donnés, mon pire souvenir c'est lors des cours de maths de CE1, lorsque ma professeure me grondait tout le temps car je ne connaissais pas bien mes tables de multiplication, elle m'interrogeait tous les jours, et lorsque je me trompais ne serait-ce qu'une seule fois, elle me privait des récréations des fois plusieurs jours de suite. Ça me terrorisait à tel point que je ne voulais plus aller à l'école. D'accord, c'est bien des choses qui rejaillissent là-dessus. J'ai mis aussi le genre, enfin le genre entre guillemets hein, bien sûr, hein, c'est l'image que l'on se construit, etc. Car très curieusement, je ne le trouve pas comme point de décrochage. Voilà, le sentiment d'être féminine ou d'être masculin, etc. n'intervient pratiquement pas dans les discours sur les mathématiques, sur l'écu disciplinaire en maths. Continuons dans cet espace social, il y a le décrochage, je dirais, par les autres, c'est-à-dire par les rencontres que l'on fait, les partages qui sont autorisés, qui sont facilités, bref, tous les gens qui sont autour de nous. Alors, il y a des enseignants, ils ne sont pas trop cruels quand même. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de cruauté que, par exemple, avec des enseignants de techno. Ça, je ne sais pas pourquoi. Les enseignants de techno, oh là, c'est vraiment... non, c'est-à-dire quand je dis qu'ils sont cruels, c'est-à-dire qu'ils sont violents. Hein. Ah, je ne sais pas pourquoi, dans le corpus qu'on a, violents. Les enseignants en maths, ils sont plutôt franchement antipathiques. Voilà, vraiment. Ils sont franchement antipathiques. Il y a très peu de choses sur les autres élèves, on a eu l'occasion de le dire ce matin. Hein. Il y a très peu de choses sur les autres élèves, sauf lorsqu'ils rient un petit peu, mais ce n'est pas encore très méchant. Et on trouve alors très très peu d'évocation de la famille ou de la fratrie. Ça, c'est aussi un point interrogeant pour moi. Je vous cite là, c'est une réponse assez longue hein, que j'avais saisie au vol dans un colloque. Donc le ton, le registre de langue est très élevé. Oui. Dans notre société terriblement hiérarchisée et inégalitaire, il n'est pas aberrant et incohérent de constater que l'on retrouve dans l'école certains acteurs, notamment des enseignants, qui non seulement ne cherchent pas particulièrement à lutter contre ces inégalités, mais au contraire les accompagnent au nom d'une idéologie du don de l'inégalité naturelle. Un de mes jeunes collègues, enseignant en mathématiques, en était la caricature absolue. Ancien bon élève en mathématiques, agrégé de mathématiques, il écrivait sur les bulletins scolaires « Élève peu intelligent, très intelligent, moyennement intelligent ». Nous nous confrontions souvent. Je lui disais qu'il n'avait pas le droit d'écrire cela, qu'il n'était pas l'alpha et l'oméga de l'intelligence. J'enseignais alors les sciences économiques et sociales, mon regard était bien différent. Mais ce collègue a fait un mal fou durant 40 ans. J'ai retrouvé ici une personne dont la fille fréquentait sa classe. Elle l'a décrit comme une horreur absolue. Naturellement, l'élève qui obtenait 18 en mathématiques trouvait cela très bien. Bon, c'est un témoignage qui est un peu différent, qui n'a pas été sollicité, qui est apparu comme ça. Donc je trouve intéressant aussi, parce qu'il était enregistré, d'avoir ce témoignage sur effectivement des vécus qui peuvent se prolonger très longtemps. Et enfin, je m'arrêtais sur les espaces juste à côté, c'est le décrochage par les valeurs. Et parmi ces valeurs, dans les discours que nous avons pu recueillir, au fond, il n'y a que des impressions d'injustice, d'inégalité, de sélectivité, tout ce que vous voulez. C'est surtout le fait que les mathématiques, c'est quelque chose qui sélectionne et qui est fondamentalement inégalitaire comme espace. En revanche, contrairement à d'autres espaces disciplinaires, aucun des élèves que nous avons interrogés, des stagiaires, des adultes, n'a jamais souligné l'absence d'éthique, ce qui peut l'être dans d'autres disciplines scolaires, ni l'absence ou la présence, ça dépend si on aime ou si on n'aime pas, de position politique ou idéologique, par les enseignants souvent ou par les autres élèves. Ça, personne ne le souligne, comme si c'était un espace de neutralité absolue. Ce qu'il n'est pas, bien sûr, mais qu'on ne lit jamais comme de cette façon-là. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais faire la même chose, comme ça, ça nous permettra de discuter pour l'accrochage. C'est-à-dire que je reprends, cette fois-ci, les élèves qui ont dit oh, « j'adore les maths, mon meilleur souvenir c'est en maths », et je reprends exactement les mêmes choses. L'accrochage par l'intérêt à la formation. Est-ce que je retrouve les mêmes choses ? Voyez-vous, je vais aller peut-être un tout petit peu plus vite en vous donnant simplement des points, enfin, on passe et puis après on fera une pause pour en discuter. Cette fois-ci, est-ce qu'on trouve des discours qui disent « j'adore les maths » ou « j'ai un très bon souvenir en maths » ou « ça me donne envie de venir à l'école », etc. Parce que la formation qu'on y reçoit, l'activité obligée, elle est intéressante. Et la première chose, c'est l'intérêt intellectuel, je dirais. Oui, j'adore les maths. Et généralement, ça vient parce que c'est logique. Mais j'aime, c'est-à-dire c'est une discipline qui me permet de comprendre ou d'agir sur le monde. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de discours d'élèves là-dessus. Ce que je distinguerais de l'intérêt pour l'avenir professionnel et de l'intérêt pour maintenant. Les élèves de CM2, c'est par exemple, c'est maintenant, parce que les maths, il faut les apprendre pour ne pas se faire gruger. C'est très important. Je reprends les mêmes choses. L'anticipation n'arrive pas comme accrochage possible. C'est-à-dire, il n'y a personne qui dit oh, « j'aime bien les maths parce que après je pourrais faire ça, je sais qu'on va faire les espaces vectoriels, etc. » Non, personne. Et ça vous fait rire, mais c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ni par la possibilité de se dire « oh ben, j'ai vraiment changé, j'ai appris à... » Je ne le trouve pas, alors que nous avons interrogé des élèves qui disent adorer les maths. Ah, et on a des souvenirs d'anciens matheux, enfin de gens qui sont matheux, et on ne trouve pas ça. Une citation, c'est au lycée, c'est en filière générale, c'est même je crois en première S, donc quelqu'un qui dit j'adore les maths, car le niveau augmente de plus en plus, et j'aime le challenge. Je trouve que c'est important dans la vie et intéressant. Jusqu'à présent, j'ai eu des très bons profs et des sujets intéressants. D'accord, c'est quand même les deux. Les mathématiques sont importantes dans mon métier futur et dans mes études. Donc ça reprend effectivement la personne qui dit vraiment, moi j'adore ça, c'est intéressant. Il y a l'accrochage par l'absence de pénibilité. C'est facile, ça oui. Oui, le calcul mental. Exactement. Il y a l'absence de travail à fournir, qui est très important. C'est une des disciplines dans laquelle on trouve le plus souvent, je vous cite en seconde, c'est une matière où j'ai pas eu besoin d'apprendre pour réussir. Et beaucoup d'élèves qui adorent les maths disent « Mais moi, j'apprends rien. Je travaille pas. C'est vachement facile. Voilà. » La possibilité de tricher facilement, qui apparaît très peu, hein, mais c'est parce que je pense qu'ils n'osent pas trop le dire, ou de pas trop s'investir, parce qu'après tout, c'est vrai que c'est une décharge dans ce cas-là, et des moments de plaisir ou de joie, c'est-à-dire qui rendent effectivement le travail un peu moins pénible, nous en trouvons aussi de temps en temps. L'accrochage, toujours par un ou plusieurs points du domaine étudié, mais si je vous rassure, les nombres, ça peut être intéressant, mystérieux et questionnant. C'est rare de trouver ça, mais on le trouve de temps en temps. Oui, les activités plutôt. Par exemple, c'est des élèves qui disent « Moi, j'adore chercher, j'adore calculer, j'adore me poser des questions. » C'est une discipline dans laquelle on est curieux. C'est rigolo hein, d'entendre ça. Voilà. Donc, il y a des activités, par exemple, tracer des figures. Il y a des élèves qui adorent tracer des figures. Ça arrive. Le système de preuve a très peu de supporters, on va dire. Très, très peu. J'ai des idées là-dessus. Et les objets ou des techniques particulières qui sont vraiment attractifs. Oui, les terminales adorent la calculatrice programmable. Ah oui. Oui, c'est bien. C'est vachement bien. On apprend à maîtriser ça. Bon, c'est sympathique. Enfin, ils aiment bien. Pas tous, bien sûr. Donc, un ou plusieurs points du domaine. Voilà. Les dispositifs. Alors, les dispositifs, les modes d'enseignement, il y en a très peu. On dit très peu de choses. Des lieux spécifiques, je n'ai pas trouvé non plus. Par exemple, on va en salle d'informatique. Quand j'étais jeune prof, il y avait des élèves qui disaient « Moi, j'adore les maths parce qu'on va en salle d'informatique. » C'est les débuts, donc ils aimaient beaucoup. Là, je ne l'ai pas trouvé. Des moments exceptionnels, ils ne vont jamais dans un musée pour voir des expositions de maths. Et c'est dommage. Sauf à Maubeuge. Parce que, à Paris, et c'est ça, on n'a pas de corpus tellement sur la région parisienne. Les rituels rassurants, j'en ai peu trouvé, mais il y a des exercices qui sont très appréciés. Très curieusement, il y a des élèves, par exemple, en CM2 qui disent « Moi, j'adore faire des divisions, et quand je suis toute seule le mercredi après-midi et que je m'ennuie, je me pose des divisions. » Comme quoi, ça avait fort surpris dans l'équipe. Alors, l'accrochage par les performances, la réussite personnelle, je ne m'attarde pas, parce que c'est exactement le pendant. C'est les gens qui ont une maîtrise, qui réussissent bien, qui ont de bonnes évaluations. Oui, c'est vrai que ce sont des raisons pour accrocher. Ça, c'est certain. Mais à mon avis, ce sont des effets, plutôt. Oui, c'est vrai pour toutes les disciplines. Pardon, excusez-moi. Oui, dès qu'on maîtrise, dès qu'on réussit bien, dès qu'on a de bonnes évaluations, on aime bien, oui, on se dit à l'aise. Voilà, c'est quelque chose. Il y a parfois des élèves qui réussissent moyennement dans une discipline et qui disent que c'est leur discipline préférée. Ah oui. Oui, quand même. Voilà. Mais ça participe, quand même, il ne faut pas exagérer. L'image de soi positive, elle est très peu mentionnée. Très, très peu. Oui. Ça, je trouve ça interrogeant. Il y a très peu d'élèves qui disent qu'ils sont fiers d'eux. Enfin, fiers, vous comprenez, parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Le sentiment d'appartenance à une élite, c'est pour ça que je voudrais aller interroger les classes prépa ou grandes écoles. On le dit pas du tout, c'est pas du tout mentionné. L'absence d'humiliation ou de traitement sévère, non. Il n'y a pas d'arrogance du tout chez les élèves que nous avons interrogés. L'accrochage par les autres. Et là, c'est ça qui est... C'est évidemment les enseignants, les autres élèves, on n'en parle pas. La famille, on n'en parle pas non plus tellement. En revanche, les enseignants en mathématiques, s'ils sont cités comme raison d'accrochage, c'est parce qu'ils sont aidants. Ils expliquent bien. C'est vraiment... c'est pas la même chose dans toutes les disciplines scolaires. Hein. Mais les enseignants qui sont cités comme des enseignants... qui ont rendu possible un accrochage dans la discipline, c'est ceux qui ont expliqués, qui ont aidé. Ou alors ce sont ceux qui sont admirés, mais ça c'est à partir de la classe de première. Voilà. Il y a vraiment un partage, hein, c'est après. Ils ne sont pas admirés comme tels jusqu'à peu près, oui, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment des spécialistes, j'ai envie de dire. L'accrochage par les valeurs, ben, elle arrive pratiquement jamais. Personne ne le dit. Non, c'est pas, ils n'adorent pas les maths parce que ce serait un lieu d'égalité. Ils n'adorent pas les maths parce que c'est un espace où il y a de l'éthique. Comme je disais, on ne découpe pas des grenouilles vivantes. Hein. Et ils n'adorent pas les maths parce que justement, ce serait une neutralité extraordinaire dans ce lieu. Voilà.